Notez que nous étions le premier dimanche de l'Avent. Dans la semaine, en fait, en réfléchissant, j'ai fait comme toi, Jacques, je me suis dit, mais c'est bien 4 dimanches avant. Et puis voilà, donc c'est le 28 novembre, c'est confirmé. Hein? Que sommes-nous en train de préparer? La crèche. Ouais, on cherche des enfants aussi et des le sapin, oui. Nous sommes en train de préparer une venue assez particulière, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans. Et j'ai l'impression qu'on est en train de préparer une venue qui est particulière pour nous, dans un monde qui est particulier. Jamais on a eu autant de sujets lourds, hein, à gérer, digérer. Hein. Et en fait, ce que Noël est, c'est vraiment la promesse de Dieu. Hein. Dieu s'est fait homme. Comme Jacques nous l'a raconté, dans la fournaise, il y avait le quatrième personnage. La théophanie, Dieu s'est fait homme, il est là. Alors personne n'a osé le toucher, hein, ce quatrième personnage. Déjà, la bougie, c'est chaud, mais la fournaise. Hein. Et en fait, le Tout-Puissant est apparu dans un bébé qui était vulnérable, sans domicile fixe. Et c'est John Piper qui disait ceci, l'évangile de Dieu n'est pas Dieu qui arrange l'humanité d'une meilleure façon, mais c'est Dieu pénétrant l'univers des hommes à travers la personne de son divin Fils qui est l'image parfaite du Père. Vous pourrez méditer cette phrase. Hein. C'est absolument, ça dépasse toute imagination. Hein. Nous disons, Jésus est venu dans le monde. Ça, c'est un message. L'apôtre Paul dit que c'est cela l'évangile. L'évangile, cet évangile, c'est Dieu qui l'avait promis avant par ses prophètes. Et cet évangile concerne qui? Eh bien, il concerne son fils qui est né de la descendance de David selon la chair. Mais cet évangile, nous qui avons lu, compris, qu'est-ce qu'il a de plus à nous apporter? Qu'est-ce que l'évangile va apporter à ce monde? Est-ce qu'on va faire comme les grandes surfaces? On va sortir nos luminaires et puis attendre cette période parce que, on essaye un peu de se réjouir comme on peut. Et puis l'année prochaine, on va revenir, etc. Qu'est-ce que Jésus a apporté à ce monde? Qu'est-ce que l'évangile nous a apporté? Eh bien, c'est cela que j'aimerais vous présenter ce matin avec l'aide du Seigneur. D'abord, Jésus est venu dans ce monde pour le plus grand besoin de l'humanité. Quand l'homme a choisi de suivre les directives du diable, a choisi d'obéir à Satan, eh bien, il a forcément désobéi à son Créateur. Et l'homme est tombé, et il a péché, et il doit mourir. Ah, Dieu lui avait dit. Et le mal a été scellé par l'homme et en l'homme. Comment se défaire de ce mal? Et les conséquences, bien sûr, n'allaient pas tarder à se manifester. À partir de ce moment-là, le plus grand besoin de l'homme, c'est d'avoir une lueur d'espoir. Bon, l'espoir est parti. Bon. Cette lueur d'espoir, c'est cette bougie qu'on allume. Un petit quelque chose qui va permettre à l'homme d'espérer. Vous savez, il n'y a pas une pire situation que là où il n'y a plus d'espoir. C'est vrai, hein? Quand on est dans les problèmes ou quand quelqu'un est dans les problèmes et quand la conclusion est il n'y a plus rien à faire, ah, on est abattu. L'homme est prêt à se donner, il est prêt à gravir les montagnes, à se sacrifier quand il y a une lueur d'espoir. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Ma femme me racontait que quand elle était à l'hôpital de la Timone, il y avait des parents qui étaient venus avec un enfant malade dans les bras depuis le sud de l'Italie. Ils avaient pris le train, ils avaient pris le taxi, ils avaient économisé pour pouvoir venir parce qu'ils disaient « il y a de l'espoir ici ». Ah, l'espoir. Qu'est-ce que ça ne fait pas faire, l'espoir, hein? L'espoir, c'est l'attente d'une solution que l'on pense qu'elle va se réaliser, que la situation va changer. Elle nous permet de ne pas désespérer. C'est cela l'espoir. Cette lueur qui s'allume, c'est « ne te décourage pas », c'est l'écho qu'il y a dans notre cœur. L'espoir nous permet de ne pas sombrer dans l'angoisse et la peur. Cet évangile et cet espoir. L'évangile est l'espoir qui a été donné à Adam et Ève. Il a été donné dans ces quelques mots. « Je mettrai inimitié, dit Dieu à Ève, entre toi et la femme. » Enfin, il parle à tout le monde, mais il s'adresse au serpent. Mais il inclut Ève, hein, « entre ta descendance et sa descendance. Je mettrai inimitié. » Il dit « la descendance de la femme t'écrasera la tête. » Adam et Ève qui étaient complètement sonnés par le péché, hein, c'est quelque chose d'assez effroyable, ont eu une lueur d'espoir. Et l'humanité s'est souvenue de cet espoir qui a été donné par Dieu. C'est ce qui a fait dire à Job, je sais que mon rédempteur est vivant. Alors Job, hein, il avait rien, absolument plus rien, mais il avait cette lueur d'espoir. Cette bougie qui s'allumait, où il l'a pu dire, et il se lèvera le dernier sur la terre. Et le prophète Ésaïe, qui a prophétisé, a dit ceci, en ce jour, l'Éternel châtiera de sa dure et grande et forte épée, Léviathan, serpent fuyard, Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Quel espoir! Quel soulagement! Ce sauveur est venu pour réaliser ce que Dieu avait dit. L'évangile a apporté l'espoir. Et c'est Pierre qui va exalter le nom de Dieu. Il dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une nouvelle vie en relevant Jésus-Christ d'entre les morts et nous avons ainsi une espérance vivante. » Vous pourrez ranger la crèche après Noël, mais cette espérance, on ne pourra pas la ranger. Elle est là. Voilà l'espoir. Est-ce que toi, tu as trouvé cet espoir? Est-ce que tu as cet évangile où il est dit que, afin, on vous a dit ces choses-là, afin que vous croyiez et que vous ayez la vie éternelle. Cet évangile dans lequel nous avons raison d'espérer parce qu'elle nous accorde non seulement la communication avec Dieu, mais plus encore la communion avec Dieu. Quel plus grand espoir! Cet évangile, pour nous donner cet espoir, eh bien, nous montre aussi la porte. Et la porte, c'est la croix. La croix, si elle n'est pas présente dans l'évangile, alors nous restons coupables devant Dieu et il n'y a plus d'espoir. Rien ne pourra nous réconcilier avec lui s'il n'y a pas cette croix. Ni les hommes, ni les bonnes œuvres, ni les prières. C'est l'œuvre de la croix qui nous sauve. Avons-nous cette assurance ce matin que le message de l'évangile est un message d'espoir? Et ce qui est surprenant, c'est que celui qui en parle le mieux et qui a donné sa vie, c'est l'apôtre Paul. Et quand nous regardons les épîtres de Paul, on voit qu'elle est là l'image de l'espoir. Bon, un peu en retard, mais c'est pas grave. Paul dit, en début de l'épître aux Romains, qu'il est serviteur de Dieu, appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes et il concerne son fils. Et puis Paul finit avec l'épître à Philémon, dans le classement, hein, c'est pas un classement chronologique, hein, mais dans le classement de ses épîtres, eh bien, on voit qu'il dit à Philémon, encore il rappelle cet évangile, où il dit qu'il a été mis dans les chaînes pour l'évangile. Parce que l'homme a besoin d'espoir. Tous ceux qui sont autour de vous, qui ne vont pas bien, ont besoin de cet espoir. Moi, j'ai besoin de cet espoir. J'ai besoin de me rappeler que Jésus est venu pour satisfaire notre besoin d'espoir. Il est venu dans ce monde aussi pour étancher notre soif de vérité. On pourrait parler d'espoir, mais vous savez, des fois, on raconte aux enfants des contes, hein, afin de les amuser un peu. Mais les gamins, ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien que c'est faux, hein. Voilà, comment ça se fait que le petit chaperon rouge qui a été mangé, hein, la ventre ouverte et tout, elle ressort comme elle était. C'est bizarre comme truc, hein. Hein, ça, c'est un conte pour donner de l'espoir. Mais l'espoir qu'apporte l'évangile est basé sur la vérité. Alors aujourd'hui, on est très méfiant avec cette histoire de ce qu'on entend, hein. Dans ce que nous lisons, nous sommes méfiants. Est-ce qu'on nous dit la vérité, hein? On nous parle tellement des choses que la première question c'est, est-ce que c'est vrai? Même dans ce que nous mangeons, hein, est-ce que c'est bon ou pas? Et on fait des recherches. Alors il y a un journal, donc François, qui disait ceci, en parlant des Français et de la période de pandémie que nous vivons. Les Français soulignent de plus en plus leur défiance vis-à-vis des hommes politiques. Et la situation ne s'arrange pas en ces temps troublés par l'épidémie du coronavirus. Le gouvernement est accusé de mensonge. Je pense que vous suivez les actualités. Quand on voit ce qui se passe en Guadeloupe et quand on comprend leur propre histoire avec ce qu'on leur a raconté, ne soyons pas étonnés de leur réaction. Et l'article ajoute que le mensonge devient plus grave encore s'il est volontairement orchestré pour masquer une certaine vérité. Et on nous parle de raison d'État pour expliquer que l'on peut ne pas dire la vérité. Alors, je ne pense pas qu'il faille tout dire. Hein, je pense qu'au niveau gouvernemental, ils doivent avoir les sueurs encore plus que nous. Hein. Mais il y a ne pas tout dire et il y a mentir. Hein. Et les deux termes en hébreu, donc, qui veulent dire vérité, hein, employés que le français traduit par vérité, eh bien, c'est la notion de vérité et de foi. Nous ne pouvons pas avoir confiance en quelque chose qui n'est pas vrai. L'évangile est vrai. D'ailleurs, Pilate n'a pas compris, hein, quand il discute avec Jésus, il lui dit, qu'est-ce que la vérité? C'est normal pour Pilate. Pour lui, la vérité, c'est une conception philosophique. Mais pour Jésus, la vérité est claire. C'est lui la vérité. Il est le roi à venir. Et que dit Pilate? Il ne comprend pas. Il dit. Et que répond Jésus à qu'est-ce que la vérité? Rien. Pilate n'a rien compris. Et il ne peut pas comprendre tant que sa notion de la vérité reste abstraite. C'est pourquoi Jésus, en parlant aux pharisiens qui étaient responsables d'enseigner la vérité, leur dit que ils ont pour père le diable. Aïe! Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Lui, il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Je ne sais pas comment on se situe par rapport à la vérité. Peut-être que des fois, on fait une entorse à la vérité pour arranger certaines choses, hein. C'est pas biblique. Heureusement que les évangiles sont clairs quant à la notion de la vérité. Les récits de l'évangile, les récits sont précis. Les événements historiques sont vérifiables et justes. Il n'y a pas d'erreur de transmission et il y avait même des témoins fiables. Tout cela amènera Paul à dire que Christ est ressuscité et il a été vu par Pierre, donc Céphas, puis par les 12 ensuite. Il a été vu par 500 frères à la fois. C'est extraordinaire, hein? Dont la plupart, dit-il, sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques. Alors Jacques, c'est le frère du Seigneur, celui qui pouvait pas... Il y avait hostilité entre les frères de Jésus et Jésus, n'est-ce pas? Et Jacques va admettre que son frère est ressuscité. Et puis Paul dira, à la fin, il a été vu par moi. On ne peut pas transmettre un message si nous ne sommes pas sûrs que ce message est vrai. Et Luc, le médecin associé à Paul, dira ceci lorsqu'il écrit son évangile, il dit « Plusieurs ont entrepris de composer des récits des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été des témoins oculaires et qui sont devenus des serviteurs de Jésus, c'est-à-dire de la parole. Il m'a semblé, moi aussi, donc il écrit à Théophile, après avoir fait des recherches exactes depuis les origines de te les exposer, par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous pouvons dire que l'évangile est la vérité. Donc l'évangile ne change pas, il reste le même. La vie de Jésus ne change pas siècle après siècle, la mort de Jésus ne change pas, son message ne change pas. Et vous savez, les écrivains bibliques ont même gardé les enseignements les plus gênants, ceux qui nous titillent, ceux qu'on n'a pas envie de voir dans nos Bibles, mais de l'ordre dans ta vie. Pardonne à ceux qui t'ont offensé, prie pour tes persécuteurs, ne t'attache pas aux choses de ce monde. On n'a pas envie d'écouter ça. C'est la vérité. Aime Jésus plus que tout et meurs à toi-même. L'évangile nous a apporté la vérité. C'est pourquoi Paul veillait à ne pas altérer cette vérité. Quand il parlait de l'amour de Dieu, il parlait aussi de la justice. Quand il parlait de guérison, il était aussi attentif à ce que Dieu voulait dans certaines situations. Quand il parlait des droits des chrétiens, il parlait aussi de leurs devoirs. Quand il parlait de la vie éternelle, il leur parlait de la colère et du jugement de Dieu. Parfois peut-être nous hésitons, nous, à parler du jugement de Dieu et même de l'évangile à ceux qui sont autour de nous par crainte d'éloigner les personnes, les incrédules, du message de l'évangile. En réalité, nous oublions que nous sommes entourés d'individus qui ont désespérément soif de vérité. C'est une réalité. Ils ont besoin d'avoir une solution à leurs problèmes. Et peut-être que c'est nous qui doutons, c'est pas eux. Nous pensons que l'évangile n'est pas capable de changer leur vie, alors que la vérité bouscule et change les choses. C'est le rôle de l'Église de transmettre cette vérité. Jésus est venu pour apporter aussi le besoin de ce monde par l'évangile, la vérité. Mais il est venu dans ce monde pour aussi apporter la paix. Ah, la paix. Tout le monde cherche la paix, n'est-ce pas? Si nous parlons d'une chose aussi importante, c'est parce qu'elle nous manque. Les grands de ce monde peuvent se mettre autour d'une grande table. Toutes les décisions peuvent être prises. Mais il y en a toujours un qui va dire, oui, mais moi, je suis pas d'accord. Et tous s'écroulent, hein. La COP26 se réunit. Les gens, il y en a un qui dit, je suis pas d'accord. Et tout le monde repart en disant, comment est-ce qu'on va y arriver? L'apôtre Paul a écrit ceci aux Thessaloniciens. Jamais, en effet, leur dit-il, vous le savez, nous avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtre du Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Et Paul dit, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. En fait, Paul a compris qu'il ne suffit pas seulement de transmettre l'évangile, de communiquer l'évangile, mais il faut aussi que ce qu'apporte l'évangile, la paix et l'amour de Dieu, soit vécu. Il s'est montré tel qu'il était, vulnérable, avec ses limites, avec ses peu de force, mais avec une grande honnêteté. Il n'a rien caché, rien falsifié dans les relations personnelles. Et vous savez, des fois, dans nos relations personnelles, on cache certaines choses, hein. Et je m'aperçois que c'est comme la cocotte minute, hein. Et à un moment donné, ça explose, hein. Nous cachons, mais voilà. Hein, à un moment donné, ça prend le dessus. Paul a dit, moi, je n'ai exploité personne, jamais. Je n'ai pas fait de distinction entre le pauvre et le riche. Il n'a pas cherché sa propre gloire. Il n'est pas tombé dans le piège du culte de la personnalité. Jamais il n'a été investi d'un esprit de compétition. Nous avons été pleins de douceur avec vous. C'est Roy Eschen qui dit ceci. Aucun recoin de notre vie ne doit demeurer indépendant de Dieu. Sa présence doit imprégner de cette paix tout ce que nous faisons. si sur quelque point cette paix est troublée ou secouée, c'est que le péché est entré par quelque part et nous avons à nous en repentir. Dans une pastorale, on discutait et puis il y avait des éminents théologiens qui étaient en train d'exprimer quelque chose et tout. Et il y en a un qui nous a parlé de la paix. Et je ne sais pas qui a posé la question après, mais est-ce que cette paix, nous la vivons? Et dans une pastorale, hein. Alors Théogène s'est assis, il a dit, malheureusement pas. Nous parlons de la paix. Nous avons reçu la paix. Elle nous a été apportée par l'Évangile. Mon frère, ma sœur, tu vis la paix de Dieu? Elle ne répond pas. Moi, des fois, je dis au Seigneur, je ne vis pas ce que tu m'as apporté. Je suis misérable. Et je comprends que si nous sommes troublés sur un point, c'est que j'ai à me repentir de cela. Le péché est rentré quelque part, m'a troublé, a troublé cette paix. Nous sommes appelés à vivre cette paix, à vivre cet amour. Imaginez un seul instant si l'Évangile n'existait pas. Juste un instant. Quel drame. Quel désespoir total. Nous vivrions dans un monde, en réalité, où plus rien n'aurait de saveur. Ce monde serait le monde de l'absurde, comme disait Albert Camus, où la folie serait une maladie pire que le Covid. Ce monde qui serait déjà l'enfer, parce qu'en enfer, il n'y a plus d'espoir, plus de vérité, plus d'amour, plus de paix. Mais Dieu merci, il ne nous a pas laissés ainsi. L'Évangile a apporté l'espoir, la vérité, la paix dans nos cœurs et l'amour. Mais l'Évangile aussi a apporté autre chose. L'Évangile a apporté un conflit. Eh oui. Merveilleux l'Évangile. Alors on va annoncer ce bel Évangile à ceux qui sont autour de nous. Mais nous oublions qu'il y a toujours l'hostilité du prince de ce monde. Et il est là. Et nous le savons. Je mettrai inimitié, dit Dieu, entre toi, le serpent, et la femme. Nous savons encore aujourd'hui, même si Satan a été vaincu à la croix, nous savons qu'il est encore en action, que l'inimitié existe, que le désaccord, que l'opposition farouche entre Jésus et Satan existe. Même si nous appartenons au camp de Dieu, eh bien, notre ennemi reste actif. Vous avez été très certainement choqués cette semaine, d'entendre des informations où des gens que l'on pensait merveilleux sont dans des affaires absolument scandaleuses. Quel choc! On dit, moi je crois plus en personne hein, maintenant. Hein. Eh oui, hein. Des gens tellement gentils. Mais on est naïf. Vraiment, on est naïf. On oublie que le prince de ce monde, c'est Satan. Et qu'il œuvre. Alors quand on entend parler d'injustice, on est comme étonné, hein? Ah bon? Ou de destruction, ou de scandale, ou de corruption, ah bon? Dans ce monde, eh oui, c'est le monde où règne encore Satan. Pour un temps, il est le prince. On vit des situations dans ce monde telles qu'on n'en a jamais connues à une telle échelle. Incroyable. Partout où nous regardons, nous voyons des choses absolument incroyables. Nous devons être conscients qu'à chaque fois que l'Évangile est annoncé, il y a une réaction en face. À chaque fois. Nous qui voulons transmettre cet Évangile, eh bien, qu'est-ce que nous avons? Une opposition. Vous pensez qu'à Noël du cœur, ils vont tous venir, ils vont tous bien manger, bien discuter, repartir avec Jésus dans leur cœur? Commençons à prier. Commençons à nous mettre à genoux. C'est là où ça commence. Hein. La partie n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée. Apocalypse nous dit que le dragon fut irrité contre la femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, aux enfants de Dieu, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Ah! L'Évangile nous apporte de bonnes choses et en face, eh ben, il y a une réaction à ces bonnes choses. Regardez Abel. Abel a compris l'évangile de Dieu. Il a dit, tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Je donne le meilleur de moi-même à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a récolté? Voilà. Premier meurtre. Hein? Regardez Abraham. Il obéit à Dieu. Il arrive en terre promise. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a rapporté? Famine. Ah. Et on va en Égypte. Regardez Moïse. Moïse arrive avec le merveilleux message de la délivrance du peuple d'Israël. Alors peut-être c'est passé dans les journaux, dans les infos, dans les radios télévisées. Tout le monde était là, c'était merveilleux. L'Éternel était clair avec Moïse. Hein. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous parle et ne croit pas, donc il faut qu'il libère le peuple, eh bien vous lui direz, et qu'il vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon. Et cela deviendra un reptile. Alors Moïse se rend avec Aaron, hein, donc auprès de Pharaon, et il agit comme l'Éternel lui avait ordonné. Aaron prit son bâton et le jeta, et le bâton se transforma en reptile. Mais, il y a un mais là, hein, croyez que Pharaon il va se laisser faire comme ça? Mais Pharaon appela ses sages et les sorciers, hein, les magiciens d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux aussi? Ils firent autant par leurs pratiques occultes. Ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron, comme avait dit l'Éternel. L'Éternel ne nous a jamais dit, l'évangile va se répandre et il n'y aura aucun souci. Ah non, bien au contraire. Jésus est arrivé dans ce monde et dans la peau d'un enfant tellement délicat et sans force. En face, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, les ténèbres qui se sont activées contre lui. Le ministère de Jésus en son temps était de prêcher l'évangile. Qu'est-ce qui est arrivé? Des manifestations démoniaques absolument incroyables. L'évangile progresse dans ce monde. L'évangile progresse dans nos vies. Et voilà que l'opposition se manifeste. Nous voulons nous engager? Ah ben, engagez-vous. Nous voulons entreprendre des choses pour le Seigneur? Eh bien, entreprenons. Et voilà que tout s'acharne contre nous. Hein? On voit quelqu'un qui fait un pas avec le Seigneur. On prie pour cette personne et voilà que des difficultés arrivent. Comme Pharaon, vous savez, après cela, il s'est acharné contre les Hébreux en leur disant, vous allez faire des briques là, mais vous allez récupérer la paille. Hein? Voilà. Et oui, le message a été transmis et l'ennemi a compressé. Nous devons nous souvenir de cela quand nous observons notre monde. Nous vivons dans des temps où il y aura de plus en plus d'injustices, où l'amour du plus grand nombre diminuera, où la séduction se propagera. Nous aurons beau écrire, raconter tout type d'histoire pour calmer les gens, seul l'évangile sera dans la vérité. Et que nous dit Dieu? Eh bien, il est dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est merveilleux, non? En fait, l'évangile continue. Et l'évangile va aller jusqu'au bout. L'histoire n'est pas finie. Alors, vous savez, il y a un personnage que j'aime beaucoup. C'est Monsieur Castor. Vous connaissez Monsieur Castor? Dans Narnia. Il est formidable, hein? Il est tout excité à voir des fils d'Adam. Et il a, et puis il rentre chez lui. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est content? Il voit que les choses deviennent encore plus dures.